Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à l'émission Voix de Service Magazine, édition du 10 mai 2018. Une journée douce, ensoleillée, en tout cas ce matin. Alors, Monique Kerouac au micro, en compagnie de Marie Lalande.
Bonjour.
Bonjour Marie, et d'Yvan Deslauriers.
Bonjour à vous deux.
Merci d'être là. Merci à Maurice de l'autre côté de la vitre, à la régie, pour la mise en onde et les choix musicaux. Alors, Marie, quoi allons-nous parler ce matin?
D'abord, de stratégies utiles pour des gens, des parents qui vivent avec un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme.
Oui.
Et ensuite, on va parler de bilinguisme.
Oui.
En fait, d'apprentissage d'une deuxième langue. Mm-hmm. Et comment on fait pour distinguer ça des troubles d'apprentissage liés au langage?
D'accord. Voilà. Yvan, de ton côté?
Moi, mes deux sujets, ça tourne autour du marathon.
Oui.
Mais pas tout à fait d'un point de vue technique.
D'accord.
Vous allez voir.
Oui, oui, c'est assez intéressant. Alors, de mon côté, un premier article sur l'hypnose. On a parlé de méditation il y a quelques semaines. Alors, l'hypnose, mais ce qu'on en sait scientifiquement. Je ne vais pas vous...
On ne teste pas rien.
Non. Je n'ai pas cette expertise-là encore. Et,
c'est ça qui me faisait peur, d'ailleurs.
Ah oui! Tu ne me fais pas confiance, hein, Yvan.
On est soulagés.
Pas là-dessus.
Et un second article sur l'impact, en fait, de l'intelligence artificielle. On va parler de robots et de travail. Alors, qui va avoir le dessus sur qui?
Oh, puis est-ce qu'on peut hypnotiser
les robots?
Les robots?
On verra.
Il y avait un peu de trop.
Voilà, c'est parti, les amis. Alors, Marie.
Oui.
Troubles du spectre de l'autisme et en appui.
Oui, donc des stratégies pour les enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme. C'est un texte de Mélanie Pombriand, qui est éducatrice spécialisée. Et ce texte a été publié sur le site aidersonenfant.com le 14 décembre 2017. Alors, ça date un petit peu, mais c'est toujours utile.
Mais là, quand même, 14 décembre.
C'est pas si loin, quand même.
Mais c'est très utile.
Et c'est très utile.
C'est la même année.
Oui. Un enfant ayant un trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, on va appeler ça par l'acronyme, a des besoins particuliers qui requièrent des interventions adaptées à sa manière d'interagir. Voici quelques suggestions pour vous outiller au quotidien en tant que parent. Les parents d'un enfant ayant un trouble du spectre de l'autisme vivent quotidiennement des défis parentaux, comme toutes les familles. Toutefois, les besoins particuliers de leur enfant complexifient leur façon de faire. Les parents doivent donc privilégier les approches non conventionnelles et prendre en considération la réalité de leur enfant. Voici donc des outils d'intervention efficaces à adopter au quotidien. D'abord, prioriser les objectifs. Les enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme sont souvent entourés de plusieurs professionnels, ce qui fait qu'ils ont plusieurs objectifs à travailler dans différentes sphères de leur vie. À la maison, priorisez vos objectifs en fonction, 1, de votre niveau d'énergie. En période de stress ou de fatigue, n'ajoutez pas de nouveaux défis au quotidien de votre enfant. Misez sur le maintien des acquis. 2, du temps que vous avez à investir. Si vos matins sont pressés, comme la plupart des matins des parents, il vaut mieux travailler l'habillement autonome à un autre moment de la journée ou la fin de semaine. Et 3, de la disponibilité de votre enfant. Au retour de l'école, votre enfant est fatigué et a besoin d'une pause. Attendez donc qu'il soit reposé avant de lui faire des demandes. De plus, n'oubliez pas de choisir vos batailles car il est impossible de travailler tous les objectifs en même temps. Ensuite, on va prioriser leur qualité plutôt que la quantité des objectifs. Surtout, prenez garde à l'épuisement. Deuxième stratégie, fournir un support visuel. Par exemple, sur une longue bande verticale, plusieurs petits rectangles. Donc, la longue bande, c'est pour la journée du lundi. Les petits rectangles, c'est chaque étape de la journée. Alors, sur un carton, je me réveille. Sur un autre carton en dessous, je fais mon lit. Ensuite, je m'habille. Ensuite, je nourris le chien. Évidemment, si on en a un. Ensuite, je déjeune.
Ou le chat.
Ou le poisson. Ensuite, je déjeune. Ensuite, je brosse mes dents. Ensuite, je m'habille, entre parenthèses, le manteau, les souliers. Ensuite, j'attends l'autobus scolaire.
Ce qui rassure.
Ce qui rassure, puis ce qui met les choses dans un ordre chronologique, une routine. Et les petits bonhommes, les petits bonhommes sourires avec les pictogrammes qui indiquent l'humeur, ça peut aider aussi. Utilisez donc un support visuel lorsque vous intervenez auprès de votre enfant, surtout lorsqu'il démontre de l'anxiété. Pour plusieurs enfants aux prises avec un TSA, le visuel est la porte d'entrée de l'information. En plus de le rassurer, c'est un excellent outil pour effectuer un rappel. Vous pouvez l'utiliser pour lui présenter des choix, discuter, donner une consigne, expliquer une consigne et même l'aider à comprendre des notions scolaires. Voici des exemples d'outils visuels à privilégier dans votre quotidien. Ça peut être des pictogrammes, des photos, des dessins, un langage conceptuel. Il y en a un qui s'appelle SACAD. Les gens qui vivent cette réalité-là connaissent cette ressource-là. C'est SACCADE. Donc, c'est un langage conceptuel. On en connaît des langages conceptuels. C'est des signes pour illustrer des concepts ou des idées. Donc, des mots, des cartes mentales. Troisième stratégie, structurer le temps. Savoir quand commence et quand se termine une activité peut faire toute une différence dans la vie des enfants ayant un TSA. Différents outils peuvent être utilisés pour amener votre enfant à apprivoiser, à comprendre la notion du temps afin qu'il vive moins d'anxiété au quotidien. Alors, on pourrait utiliser un minuteur ou un sablier ou un repère visuel ajouté sur une horloge. Par exemple, plus le temps passe, on déplace un morceau de gommette bleue ou un autocollant pour que l'enfant voit où est-ce qu'on est rendu et le temps qui reste. N'importe quelle minuterie à votre portée, le four micro-ondes, une minuterie portative pour la cuisine. Il est important de choisir l'outil en fonction du niveau de développement et des besoins de votre enfant. Autre stratégie, aménager un coin repos. Lorsque votre enfant montre des signes d'anxiété, de fatigue ou de surcharge sensorielle, permettez-lui de prendre des pauses de son environnement. Déterminez avec lui un endroit calme, loin des stimuli, où il pourra se retirer afin de s'apaiser. Autre stratégie, et c'est la dernière de ce texte, gérer efficacement les crises. Les outils mentionnés plus haut ou précédemment vous permettront d'intervenir en prévention et d'éviter plusieurs crises. Si votre enfant se désorganisait, certaines stratégies pourraient être mises en place afin de diminuer l'intensité et la durée de la crise. Par exemple, assurez-vous de couper tous les stimuli autour de votre enfant, y compris votre voix. Effectivement, ne pas intervenir verbalement aidera grandement votre enfant à se calmer. Demeurez près de lui afin de vous assurer qu'il ne se blesse pas. Favorisez le retrait dans un endroit calme et sécuritaire plutôt que les contacts physiques qui aggraveront l'état de crise de votre enfant. Et si vous désirez communiquer avec votre enfant, utilisez des moyens visuels pour le faire. Par exemple, présentez-lui l'inventaire visuel de ses stratégies d'autorégulation. Alors, c'est un texte intéressant pour une réalité particulière, un texte de Mélanie Pontbriand, publié sur le site aidersonenfant.com en décembre dernier.
Ce qui est intéressant, c'est que certaines stratégies pourraient très bien s'adresser à tous les parents.
À tous les parents, sûrement. Et à tous les enfants.
Puis d'ailleurs, en fin de semaine, on est allé voir une pièce de théâtre qui touche ce sujet-là.
Ah oui.
C'est le bizarre incident du chien pendant la nuit.
Oui.
Et
oui.
C'est
magnifique.
Quand tu parles de faire la liste des choses à accomplir, lui, il se faisait une liste, l'enfant, il se faisait une liste comme un... comme les horaires de train.
Voilà. Ah oui, oui. D'accord. Oui. Ah, c'est intéressant.
C'est rassurant, c'est ça.
Ben, merci beaucoup, Marie.
Plaisir.
Alors, du TSA, on passe à l'hypnose.
Oui.
Alors, je te regarde pas.
Tu me regardes pas. Non, je ne vous influencerai pas, cher collègue. Alors, sous la plume de Thomas Cavalier-Foll pour la revue Science et Vie de mars 2018, un article qui s'intitule « Hypnose, elle transforme l'activité cérébrale et les perceptions ». Alors d'abord, deux questions. Un simple tour de passe-passe destiné à époustoufler les spectateurs en quête d'exceptionnel? Une méthode ésotérique qui ne marche, si jamais elle marche vraiment, que sur les esprits faibles? Eh bien, en réalité, cette méthode, bien plus que centenaire, a des effets objectifs sur notre cerveau. On en est désormais certain. Plusieurs publications très récentes ont permis d'éclairer les coulisses du cerveau plongé en état d'hypnose. Et il apparaît plus clairement que jamais que cet état hypnotique ne ressemble à aucun autre, ni à l'éveil, ni au sommeil, et pas plus à la méditation. Lorsque l'on demande une définition de l'hypnose à Marie-Élisabeth Fémonville, qui est pionnière dans l'utilisation de l'hypnose en hôpital, elle répond « Il s'agit d'un processus d'immersion dans un état de conscience différent où le jugement, la perception et la notion du temps peuvent être modifiés. » On va approfondir justement cette définition. Mais comment concrètement parvient-on à un état de conscience modifié? Alors en suivant deux étapes. Lors de l'induction, première étape, on commence avec une phase de relaxation, tout en provoquant une confusion chez le patient qui lui permet d'abandonner les certitudes intellectuelles et leur rigidité. Ça donne une image un peu dure de l'humain, nos certitudes et nos rigidités. Bon, par exemple, avec une phrase alambiquée qui peut avoir un sens ou pas, telle que « le corps est à droite du bras gauche et à gauche du bras droit », tandis que le conscient est occupé à comprendre cette phrase, ce que vous êtes en train de faire,
oui, c'est ça.
Il se crée une phase de dissociation, deuxième étape, entre l'inconscient et le conscient, entre le milieu extérieur et le corps lui-même. Le self-control est, pour ainsi dire, désactivé, poursuit le chercheur. Et la transe hypnotique commence. Selon les travaux du professeur de psychiatrie Martin Horn, le patient revient spontanément à l'état naturel de conscience en 10 à 15 minutes environ. Les praticiens doivent donc régulièrement faire des rappels pour prolonger la transe lors des séances d'hypnose qui durent entre 30 minutes et 1h30 environ. En pratique, cette hypnose, pratiquée en hôpital, n'est pas aussi suggestive que celle des grands shows donnés par des hypnotiseurs devant un large public. L'hypnothérapeute ne donne pas d'ordre. C'est un accompagnateur qui, par le choix des mots et la conversation, amène le patient à élargir sa perception et à l'ouvrir aux problèmes et aux solutions dont il est intérieurement déjà conscient. Mais derrière ces mots précis qui décrivent des sensations, somme toute très personnelles, existe-t-il des effets réellement mesurables, reproductibles et qualifiables? Depuis peu, on sait que la réponse est oui. Et notamment grâce à une étude publiée en 2016 par des chercheurs américains qui a mis en valeur trois changements majeurs du cerveau sous hypnose. Pour ce faire, l'équipe a tout d'abord sélectionné 56 participants considérés comme hautement ou, au contraire, faiblement hypnotisables, puis comparé leur activité cérébrale à l'aide d'examens IRM fonctionnels lors de quatre états différents. Au repos, pendant c'est le premier état. Le deuxième état, pendant une phase éveillée de souvenirs. Troisième état, sous hypnose, en se remémorant des vacances sans émotion particulière. Et le dernier état, sous hypnose, en se remémorant un moment particulièrement agréable. Et les résultats sont révélateurs. Ils ont d'abord constaté une diminution de l'activité dans un des cortex, là, parce qu'il y en a plusieurs, je vais vous éviter le nom exact, Et c'était le moment de la perte de contact avec l'extérieur, la création d'une bulle et en même temps l'ouverture à la suggestion. Donc on sort de nos rigidités là. A été aussi mesurée une augmentation des connexions vers des structures qui jouent un rôle important dans le contrôle corporel ou dans le processus d'émotion, d'empathie et de temporalité. Enfin, les IRM ont révélé la caractéristique la plus inhérente à l'hypnose, qui la différencie totalement d'autres états de conscience altérés comme la méditation, le détachement vis-à-vis de soi-même et de ses pensées et actions, la perte de l'esprit critique et même, dans certains cas, l'amnésie. L'état hypnotique correspond à une attention hautement focalisée. On se préoccupe moins de porter attention à autre chose que ce qui est au centre de notre attention. Donc, le véritable truc de l'hypnose, c'est qu'elle booste notre capacité d'attention à l'objet central de nos pensées. Et contrairement à un tour de carte, il n'est pas décevant d'en être conscient. Bien au contraire. Nous avons tendance à penser que c'est l'hypnotiseur qui a le pouvoir. Mais il n'en est rien, c'est l'individu. Donc, l'hypnose est loin d'être magique et totalement humaine. Pour autant, si le champ d'action de l'hypnose est potentiellement immense, ce n'est pas non plus un remède miracle. Il s'agit d'un complément qui devrait seulement être pratiqué par les professionnels de la santé et ce, dans leur domaine d'expertise. Vous avez remarqué, j'ai souvent parlé d'intervention en hôpital. Autrement dit, ne nous laissons pas hypnotiser par l'hypnose. C'était donc un article de Thomas Cavaillé-Foll pour la revue Science et Vie de mars 2018.
Qu'est-ce qu'elle attend, la petite Lady Garçon Lazare? Qu'est-ce qu'elle me veut, la miss, avec ses yeux drenards, à la voile et du chapeau, avec une plume d'autruche pour faire plus beau? Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'elle est belle? La petite Lady déguisée comme un arc-en-ciel, avec ses bouts de sang peau de serpent, ses collants roses fluorescents, sa mini jupe en sky, et comme ça swing sous son chandail. Je vais me dévisser à force de la regarder. Il faut que je lui dise que je veux faire des bêtises. Je peux pas rester minable plus longtemps sans la brancher. Bien, elle a comme un petit chat. Il n'y a pas d'erreur. Si je te le dis pas tout de suite, j'aurai pas des images, mais je vais pas laisser passer le train. Pour ce genre de voyage, j'ai peur de rien. Qu'est-ce que tu bouges bien? On dirait que le monde est à toi quand tu te promènes. Sur ce quai de gare Cendrillon, tu marches comme une reine. Dans les yeux, ces types qui traînent avec leur blouse de fin de semaine. J'imagine aussi givrée qu'une mandarine. Je vais pas te laisser partir avec un légionnaire en perle. Je vais pas te laisser séduire par le premier mal qui traîne. Je vais pas te laisser dormir toute seule si t'es libre ce week-end. Car tu as comme un petit chat sauvage dans les yeux qui ressemblent J'ai dans le cœur.
Elle s'appelle Julia Jean-Baptiste. Elle nous chantait La Petite Lady.
Merci beaucoup, Maurice. Alors, Yvan.
Oui.
L'habit fait le moine, ne fait pas le moine?
C'est ce qu'on va voir. Vous déciderez après la lecture de cet article de Geneviève Lefebvre dans le fameux carnet d'endorphines.
Ah, t'as une croche, Paul.
Oui, vraiment. C'est devenu une de mes idoles.
C'est ça.
Sur la mode sportive, ça s'appelle « De mode et de sueur ». C'était dans la presse de la semaine dernière du 2 mai 2018. Quand j'ai commencé à courir, j'étais une carte de mode. Une vieille combine de hockey aux élastiques douteux. Il fallait faire un nœud pour que ça tienne. Un t-shirt en coton qui ne respire pas que mon chum de l'époque avait porté pour faire de la soudure. Et des running qui dataient de l'ère paléolithique où Suzanne Somers s'agitait dans des vidéos d'aérobie.
Autre époque.
Suzanne Somers, c'était la blonde dans Three's Company, en passant.
Ah, OK. Oui. La blonde?
Oui, celle D'accord. qui était un peu nounoune. Ouais, qui jouait nounoune, en tout cas.
Oui, c'est ça.
Comment ça se fait que je ne me suis pas retrouvé viral sur l'Internet juste au-dessus de Kim Kardashian? Je ne le sais bien pas. Il doit y avoir un dieu pour les innocents. Mon raisonnement était simple. Tant que je n'aurais pas fait la preuve que j'étais capable d'assiduité, vous noterez que je ne parle pas de performance, je ne méritais pas le costume officiel de la coureuse et pas une scène ne serait dépensée. Et puis, je suis tombé dans la course comme dans un sac de chips, incapable d'arrêter avant de voir le fond. Ça fait de cela des années et si j'ai pogné le mur, je n'ai toujours pas vu le fond du sac. Bombardé de conseils, j'ai acheté mes premiers vrais running des ASIC. C'est surtout des spécialités pour le volleyball puis le badminton, les souliers ASIC. Parce qu'on m'avait dit que c'était une bonne marque. Ils étaient hideux, bariolés de couleurs fluo qui ne vont pas ensemble, designés par quelqu'un qui ne s'appelle pas Manolo et padés comme le bonhomme Michelin. Depuis, j'ai appris que 1. Les conseils sont aux coureurs ce que la sculpturale Kim est au paysage médiatique. Trop, ça tombe sur le cœur. 2.
On est d'accord.
Oui.
Je sais pas sur quoi, mais enfin.
Sur le trou.
2. Je ne cours jamais aussi bien que pieds nus, ce qui m'a fait opter pour les running minimalistes. Ça, vous irez voir, c'est des running, ça a l'air. C'est presque courir pieds nus. Mm-hmm. Ça aussi, c'est une mode, mais mon corps, lui, en est plus heureux. Inutile de partir en guerre. J'ai lu toutes les études et on arrive toujours à la même conclusion. À chaque morphologie, sa recette gagnante. Et 3, ce n'est pas par snobisme que les coureurs portent des vêtements dits « techniques ». Le coton, ça irrite, ça pue. Et quand on pue, on ne se fait pas d'amis, c'est Dale Carnegie qui vous le dit. Par la suite, chaque nouvelle frontière repoussée était l'occasion de m'offrir un nouveau vêtement de course, une camisole qui respire, un cuissard qui ne ravale pas, un coupe-vent salvateur. À la troisième collision évitée de justesse avec une voiture, j'ai compris que si le noir était parfait en petite robe chic pour les cocktails mondains, c'était à coup sûr une condamnation à mort pour la course. J'ai choisi la vie. J'ai eu ma période bleue, ma période rose, ma période « j'ai sué cette course-là, je vais porter le t-shirt orange LED qui vient avec », ma période « si Mel Gibson a combattu les Anglais en kilt, pas de bobette, je peux courir en jupe avec bobette intégrée ». Ma plus grande révélation a été sur la ligne de départ de mon tout premier marathon. C'était à Charleston, en Caroline du Sud. Et ce matin-là, ignorant avec superbe les conseils de tous les stylistes de mode du monde, je portais mes vêtements les plus confortables pour affronter la distance reine. Pour le style, je résumerai comme suit. Un clown du Cirque du Soleil et moi, même combat.
Excuse-moi.
Un peu sérieux.
Oui.
Sauf que j'étais entouré de Southern Belles, c'est les dames du sud des États-Unis qui sont toujours coquettes, réputées pour leur culture de la beauté en toute occasion, y compris pour courir un marathon. Ces Steel Magnolias aux tresses françaises parfaitement laquées, aux ongles peints comme des œuvres d'art, au eyeliner appliqué d'une main qui n'avait pas tremblé, étaient percés de diamants, ornés comme des idoles, et combles de la sophistication, la couleur de leur running matchait avec leur kit de course. Pendant quelques minutes, j'ai eu la tentation de les juger. C'est qui la cinglée qui va chez le coiffeur avant de courir un marathon? Et puis, j'ai compris. Loin des clichés habituels sur la futilité des apparences, ces filles-là partaient en guerre, contre le temps, contre la douleur, contre l'abandon. Et elles s'étaient armées pour la victoire, impériale, altière, prêtes à en découdre avec la distance reine. Depuis, je me parfume avant chaque course, parce que devant l'adversité, le choix des armes appartient à ceux qui vont livrer bataille. C'était donc mode sportive dans le carnet d'endorphines de mode et de sueur de Geneviève Lefebvre dans la presse du 2 mai dernier.
Alors l'habit fait le moine.
Oui. Ah bon, OK.
Marie, une petite
brève. Oui, c'est extrait de le dossier des idées pour améliorer l'école qui a été publié sur la presse plus. Selon Juliette Grimard, 10 ans, de l'école du parc à Laval, il faudrait bannir l'intimidation. Elle dit « Je voudrais qu'il y ait moins d'intimidation. Croyez-moi, ce n'est pas très drôle d'en être victime. Tu te sens comme une vieille chaussette et tu as l'impression que les autres sont comme des diamants. Tout le monde a des qualités, tout le monde est exceptionnel, mais une personne intimidée est souvent triste et n'ose pas démontrer ses autres talents. »
Ah là 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 là! C'est quelque chose, hein? Alors, si les robots et le travail vous intéressent, si l'évaluation du bilinguisme vous intéresse ou si la course dans des conditions horribles
épouvantables,
eh bien, restez avec nous. Ça se poursuit après la chanson et la pause pour Voix de service magazine.
Thank you.
D'entendre Félix Diotte et la pièce Stop Idaho.
Merci Maurice. Alors...
Stop Idaho. Ah, oh, c'est intéressant pour des cyclistes.
Ah oui?
Oui,
ah bon?
C'est quand tu arrives à un panneau stop.
Oui.
Puis que tu n'arrêtes pas vraiment. Tu ralentis, tu regardes, puis tu continues. C'est pas légal de faire ça.
Ça s'appelle comme ça?
Ce qu'on appelle un stop américain.
Oui, oui en auto, on appelle ça un stop américain. Oui, oui, oui. En vélo, c'est Stop Idaho.
Ah, mais c'est plus beau, hein.
Puis j'ai une brève à un moment donné pour moi. Pour dire combien ça va coûter.
Ah, d'accord. Bon, alors en attendant, je vais vous lire un article qui est préparé par Emmanuel Mounier. C'est un article intitulé « Salarié ou robot, qui sera l'esclave de qui? » Et c'est publié dans la revue Science et vie de mars 2018.
Oui, quand j'ai vu ton titre cette semaine, j'ai dit « Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de le savoir!
» Alors, c'est en train de devenir le grand fantasme moderne. Les robots vont-ils bientôt occuper tous nos emplois? Routiers, banquiers, avocats, agriculteurs, journalistes, aides-soignants, chirurgiens, comptables, artistes, enfin...
Aïe, aïe, aïe.
Etc. Tous les métiers semblent aujourd'hui concernés. Et chacun de nous peut se poser la question « Mon poste va-t-il un jour prochain être automatisé ?» Après la vapeur, l'électricité, l'ordinateur personnel, la robotisation envahit massivement le monde du travail. Elle l'a déjà fait, par ailleurs, dans les années 1980, direz-vous, avec l'automatisation des usines des manufactures. Oui. Mais cette fois, ce n'est plus pour accomplir des tâches élémentaires et répétitives, telles que visser des boulons, mais pour faire ce qui est notre principal atout, c'est-à-dire réfléchir.
Oh.
Et le faire mieux que nous. C'est donc désormais le secteur tertiaire, c'est-à-dire des services, qui est concerné. Ouvrant ce que certains économistes ont baptisé le deuxième âge de la machine. La vague n'en est qu'à ses débuts. Plus nous irons loin dans le deuxième âge de la machine et plus ces prodiges se multiplieront et nous stupéfieront. Car la machine est désormais capable d'apprendre toute seule et de plus en plus vite, comme l'illustre de façon vertigineuse la récente performance de l'algorithme de Google AlphaZero. Celui-ci n'a eu besoin que de 4 heures de pratique pour battre aux échecs l'un des meilleurs moteurs actuels, lequel, fonctionnant sur la seule puissance de calcul, héritait de DeepBlue qui avait battu à plate couture le champion humain Kasparov en 1996. De quoi alimenter bien des fantasmes. Mais concrètement, quels sont les postes de travail qui ont vocation à être massivement automatisés? Combien d'emplois humains sont véritablement menacés? 10 % 30 50 % davantage? D'ici combien de temps? Et là, force est de constater que les experts ne sont pas d'accord sur les chiffres. Donc, des chercheurs de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni avaient en 2013 calculé que pas moins de 47 % des emplois aux États-Unis étaient à haut risque d'automatisation dans les 10 à 20 années à venir.
Et c'est demain, là. C'est presque 50 %.
C'est la moitié.
Mais attendez. Et d'autres études ont annoncé des chiffres comparables pour l'Europe. Mais dans une étude publiée... Pardon. En 2016, pour l'OCDE, Ulrich Zerhan de Mannheim en Allemagne a évalué, lui, que seulement 9 % en moyenne des emplois seraient à haut risque d'automatisation dans les 21 pays de l'OCDE. Alors, 9%, 47%. Comment expliquer de telles divergences? Alors, le chercheur nous dit que beaucoup d'études utilisent des informations qui ne considèrent l'emploi que dans sa dans sa globalité. Or, il y a une très grande diversité de tâches au sein d'un même emploi. Deux travailleurs qui ont le même intitulé font souvent, en réalité, des choses très différentes. Dès lors, il suffit que quelques-unes de ces tâches ne soient pas automatisables pour que l'être humain conserve l'avantage sur la machine. Mmh. Ça nous rassure un petit peu.
Oui.
Ce que nous observons, c'est que des travailleurs qui occupent des emplois en apparence hautement automatisables se spécialisent souvent dans les tâches qui ne le sont pas. Nous dit le chercheur toujours de Mannheim, qui a pris en compte ces goulets d'étranglement pour obtenir des chiffres beaucoup moins élevés. Alors, ce n'est pas parce qu'un emploi est automatisable qu'il le sera. D'abord parce que adopter une nouvelle technologie est un processus très long. Automatiser un poste peut se révéler non rentable, être mal accepté par les clients ou se heurter à des freins culturels. Mm-hmm. On peut l'imaginer, mm-hmm. On n'a pas dit syndical, mais en tout cas. D'autre part, même si de nouvelles technologies sont adoptées, les travailleurs peuvent s'y adapter en évoluant vers d'autres tâches. Enfin, même si des emplois sont détruits, le changement technologique en crée d'autres en parallèle. On pense aux développeurs de logiciels, les spécialistes du traitement des données, mm-hmm. concepteurs d'interfaces, coordonnateurs de robots. En tenant compte des gains de croissance qu'entraînera l'automatisation, estimés à environ 1% par an, ce qui me paraît bien peu,
oui.
Le Boston Consulting Group prévoit en Allemagne non pas une montée du chômage, mais un gain net de 35 000 emplois d'ici 2025. D'autant que la robotisation permettra de relocaliser en Occident la fabrication industrielle qui avait été délocalisée dans les pays où la main-d'œuvre était mm-hmm. moins chère, puisque le robot produit encore moins cher, autant l'installer au plus près. Plus que jamais, donc, l'école devra former des citoyens dans une société qui, par bien des aspects et par une ironie singulière de l'histoire, pourrait bien ressembler à aux cités grecques antiques, les robots ayant pris la place des esclaves. Se reposera alors la sempiternelle question, comment organiser la cité? Alors, c'était un article de M. Emmanuel Monnier pour la revue Science et Vie de mars 2018. Alors, Yvan, c'est comme ça qu'on pourrait décrire
oui, quasiment, oui,
les circonstances de ce marathon.
C'est un bon résumé. Alors, je vous parle du dernier marathon de Boston qui a été fait sous la pluie battante. C'est la chronique de Yves Boisvert dans la presse qui l'a couru et qui nous en décrit les péripéties le 21 avril 2018 dans sa chronique « Aquabonisme à Boston ». Et c'est écrit AQUABONISME. À quoi? Comme dans O. Mm-hmm. Bon, ça suffit. Veux-tu bien me dire ce que je fais là? Ce qu'on fait tous là, le vent qui nous pompe des chutes Montmorency dans la face continue, les mains gelées. Voyons donc, franchement ridicule. Déjà, courir des marathons soulève une question légitime. Pourquoi faire? Je n'ai jamais été un prosélyte de cette épreuve. Je ne crois pas que ce soit raisonnable ou bon pour la santé. Encore qu'avec la prolifération d'événements extrêmes, le simple marathon paraît infiniment modéré. Chacun sa névrose, chacun ses manies. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que cette activité a un but à l'entraînement. C'est un abus qui me convient, qui structure mes semaines, me tire du lit, me pousse dehors, beau temps, mauvais temps, et surtout me procure une joie inaltérable qu'aucune autre drogue ne fournit, sous réserve de voir ce qu'ils nous offriront à la Société du pot du Québec. En général, donc, quand on me demande « Pourquoi tu fais ça? », je n'essaie pas d'élaborer une théorie complexe. J'hausse les épaules, je dis, j'aime ça. Il y en a pour qui c'est les promenades en scaphandre, d'autres l'ornithologie de nuit, moi c'est les marathons. Il y a longtemps que je ne me pose plus la question, je le fais. Sauf que cette fois, la question se posait. J'en étais à mon 13e marathon de Boston, et comme tout le monde ou presque ce jour-là, je n'avais jamais couru dans des conditions aussi contrariantes. Quand il fait ce temps-là, on repousse, on va sur un tapis roulant. Malgré les apparences, les passe-temps du coureur amateur n'incluent pas l'autoflagellation et l'insertion d'aiguilles sous les ongles. Courir sous la pluie, on a fait ça souvent. À un moment donné, la pluie se calme. Courir quand il fait froid, c'est une sorte de spécialité nationale. On n'a pas le choix. Courir le vent dans la face, ça arrive. Sauf que même aux îles de la Madeleine, dans un aller-retour, t'auras 50% de vent dans le dos. Mais les trois, en même temps, sur 42,195 km en ligne droite, ça défrise le ridicule. Ça force le questionnement. Comme, à quelle heure on a du fun?
Est-ce que j'abandonne ou pas?
Ça s'en vient, ça. Souvent, la pluie se calmait. On se secoue un peu, on se concentre. Allez, hop, ça sera pas si mal. Mais 3 minutes plus tard, vram, ça reprenait. Et c'est là que l'absurdité de la situation devient plus évidente. Une sorte de lucidité temporaire surgit du lavement des habitudes. Je me suis mis à regarder froidement la situation tant qu'à avoir les pieds dans l'eau glacée. Le matin, des centaines d'autobus scolaires ont cueilli 26 948 personnes dans un parc de Boston pour les emmener à 42 km plus à l'ouest, à Optington, une bourgade de 14 000 habitants. Ils attendront dans la cour boueuse d'un high school, se placeront des heures plus tard selon leur rang de classification et partiront par vague, c'est le cas de le dire, vers Boston. Des bénévoles, près de 10 000, leur tendront des verres d'eau et de Gatorade, le tout sous une lourde surveillance policière. Mario Pelcha nous a appris qu'on ne peut pas voir des pleurs sous la pluie. J'ai presque essayé de la chanter, celle-là. Par contre, on pouvait voir monter vers le ciel les gouttes d'eau s'échappant de mes gants imbibés. Juteuses et un peu plus rondes, elles passaient à travers les gouttes fines des nuages pour aller glisser sur le dos d'un autre coureur, vu que les canards étaient tous aux abris.
Les chanceux.
À chaque mille, une tente médicale était ouverte aux éclopés. Oh, il y avait l'air de faire chaud là-dedans. Doit y avoir un séchoir géant et du bouillon de poulet. Je n'ai pas pensé à abandonner, mais je me suis demandé comment on fait? Qui vous reconduit? On n'est pas pour prendre un taxi, on prend le train, on attend le camion balai. Ça, c'est l'aventure, abandonner, quitter le troupeau, tourner le dos. Le voilà, le courage, le saut dans l'inconnu. Moi, j'ai suivi tout le monde comme un idiot. Au bout du compte, seulement 4,5% des gens avaient abandonné Boston. C'était 3% l'an dernier quand il a fait 25 degrés centigrades. Mais dans l'élite, ce fut l'hécatombe. 4 des 10 Éthiopiens ont fini la course et 8 des 16 Kenyans. Le gagnant fut ce formidable amateur, Yuki Kawoshi, directeur d'école au Japon. « C'était la température parfaite », a-t-il dit en arrivant en 2h15, près de 3 minutes devant le deuxième. Les chronos les plus lents depuis 40 ans. Chez les femmes, cette course qui s'était gagnée en 2h21 l'an dernier a été remportée en 2h39 par une Américaine. La Canadienne Krista Duchesne, du troisième, raconte qu'elle n'avait aucune idée de sa position en arrivant, les meilleurs s'étant retirés. Il a fallu qu'elle demande aux bénévoles qui n'étaient pas certains non plus. Cette douche chaude à laquelle je rêvais en courant le dernier mille. Commonwealth, à droite rue Airford, à gauche rue Boylston. Cette douche, enfin, j'y arrivais. L'ami Antoine, qui n'avait pas couru, m'attendait au BNB avec un air funéraire, l'air de dire « Pauvre toi ». J'ai éclaté de rire, un fou rire de 3 minutes, incontrôlable, comme s'il fallait que j'expulse ce sentiment d'absurdité. Moi qui vers le 17e kilomètre me jurais de ne plus jamais revenir, sitôt échauffé, j'avais repris mes esprits ou les avais perdus de nouveau. moi qui me disais « OK, c'est fini les marathons, toute cette folie collective et individuelle, j'irai jogger tranquille dans la montagne », eh bien, pas trop longtemps après, après avoir terminé l'inventaire de mes parties du corps, j'ai, on s'est tous dit, on revient l'an prochain. À quoi bon? À se sentir vivre, j'imagine. Donc, c'était la chronique de Yves Boisvert, Aquabonisme à Boston, dans la presse du 21 avril. Est-ce que ça vous tente?
Un modèle. Non. Alors, Marie, enfant bilingue, évaluation.
Oui, alors le titre, c'est justement « Enfant bilingue, problème de langage ou difficultés liées à l'apprentissage d'une autre langue ». C'est une excellente question. Mm-hmm. Et c'est un texte de Saba Mézian, qui est orthophoniste, publié sur le site parlonsapprentissage.com, pardon, le 25 avril 2018. Lors de l'évaluation langagière d'un enfant bilingue, il peut être difficile de faire la distinction entre un retard d'acquisition d'une langue et un retard ou un trouble du langage. La difficulté liée à l'évaluation des enfants bilingues provient, entre autres, de la diversité de profils dans ce groupe. En fait, les enfants bilingues ne constituent pas une population, mais plusieurs populations, qui se distinguent grandement. Par exemple, un enfant bilingue arabe français pourrait parler couramment le français et maîtriser minimalement l'arabe, alors qu'un autre pourrait être habile en arabe, mais pas en français. Entre ces deux extrêmes, les enfants peuvent avoir des performances variables dans chacune de leurs langues. En plus des différences de performance entre les deux langues, il existe une variété de performances dans une langue selon le contexte, le type de tâche, que l'on parle par exemple de l'oral ou de l'écrit, et les conditions. Afin de mieux planifier l'évaluation d'un enfant bilingue et de mieux interpréter ses performances langagières dans sa langue seconde, il est important de documenter son profil linguistique. Un petit nombre d'études ont porté sur l'élaboration de questionnaires aux parents sur le profil linguistique de leur enfant. Les informations recueillies grâce à ces questionnaires peuvent aider l'évaluateur à déterminer si de faibles résultats ou tâches d'évaluation sont liés à un trouble ou à un retard langagier ou encore à une utilisation insuffisante de la langue ou une exposition insuffisante à celle-ci. Les parents et l'éducateur ou l'enseignant peuvent répondre au questionnaire et sont considérés comme des sources fiables d'histoire d'acquisition de la langue seconde et de profil linguistique, parce que l'enfant a été observé dans différents contextes linguistiques sur de longues périodes. Voici une liste non exhaustive d'éléments à inclure dans un questionnaire qui permet d'analyser le profil linguistique d'un enfant bilingue à évaluer. D'abord, l'âge d'exposition à chacune des langues. Cette information permet, entre autres, de différencier les enfants bilingues de type simultané des enfants bilingues de type séquentiel. Alors, qu'est-ce que c'est, me demanderez-vous? Le bilinguisme simultané, c'est l'exposition à deux langues avant l'âge de 3 ans. Par exemple, dès sa naissance, un enfant apprend le français avec sa mère et l'espagnol avec son père. Mm-hmm. Tandis que le bilinguisme séquentiel, lui, représente l'exposition à une seule langue à la naissance, puis à une autre langue dans un deuxième temps. Par exemple, un enfant apprend l'arabe ou le créole dans son pays d'origine, puis il apprend le français à la garderie ou à l'école lors de son arrivée au Québec.
Pas nécessairement dans le contexte de la maison. Alors.
Non, c'est ça. Ou ça peut être, oui, effectivement, mais dans deux moments différents. Ouais.
Surtout.
D'accord. La quantité d'exposition, un autre critère à considérer, donc la quantité d'exposition hebdomadaire à chacune des langues, c'est-à-dire le nombre d'heures. Cette donnée permet de savoir si l'enfant est suffisamment exposé à une langue pour développer adéquatement toutes ses composantes. Des spécialistes ont élaboré une méthode d'évaluation de la quantité d'exposition langagière à chaque langue. Dans leur questionnaire, les auteurs demandent aux parents d'estimer le nombre d'heures d'exposition à la langue par tranche de 5 heures, donc de 0 à 5, de 6 à 10, etc. Cette méthode donne aux parents un moyen facile d'estimer la quantité d'exposition relative à chaque langue, et le questionnaire permet aussi de déterminer la proportion d'utilisation de chaque langue par l'enfant en calculant un pourcentage de temps consacré à chacune des deux langues. Le type d'exposition à la langue. Faut distinguer la quantité d'exposition à la langue passive et la quantité d'exposition à la langue active. En effet, des activités passives comme regarder la télévision offrent une stimulation langagière moins significative qu'une exposition active à la langue dans un contexte d'interaction significatif avec un locuteur de cette langue. La fréquence d'exposition dans divers contextes, la maison, l'école, on demande aux parents d'énumérer toutes les personnes avec qui l'enfant a l'occasion d'interagir et d'indiquer le nombre d'heures que l'enfant passe avec ces personnes en précisant quelle langue le locuteur utilise et avec quelle langue l'enfant répond.
Ah oui.
La durée d'exposition à chacune des langues. Alors, c'est utile de recueillir des informations sur l'exposition langagière antérieure. Pour certains enfants, le profil d'exposition est stable dès la naissance. Cependant, pour d'autres, le bilinguisme commence à la garderie et pour d'autres encore, l'exposition relative à chaque langue change à mesure qu'ils commencent à fréquenter la garderie ou à changer de garderie. L'utilisation de la langue par l'enfant aussi, bien qu'il soit exposé à deux langues, certains enfants bilingues ont peu ou pas d'occasion de répondre dans l'une des langues. Par exemple, un enfant bilingue espagnol-français pourrait avoir l'habitude de répondre seulement en français à son parent, bien que celui-ci s'adresse à lui en espagnol. Et les activités de lecture et d'écriture dans chacune des langues. L'exposition à la langue écrite est importante pour le développement du langage de haut niveau. Plusieurs enfants bilingues dont la langue maternelle est minoritaire n'acquièrent jamais complètement certains aspects de cette langue. Par exemple, on parle d'un vocabulaire plus riche, certains temps de verbes, des constructions de phrases plus formelles, parce que le langage de haut niveau ne leur est pas enseigné. Et dernier critère, le degré de valorisation de la langue. C'est aussi important de questionner les parents sur la valorisation de chacune des langues. Est-ce que c'est important pour eux que leur enfant développe les deux langues? Est-ce qu'un enfant bilingue dont la langue maternelle est minoritaire ne vit pas la même situation qu'un enfant bilingue dont les deux langues sont majoritaires, comme le français et l'anglais à Montréal? En somme, au moment d'évaluer le profil linguistique d'un enfant bilingue, c'est important de documenter sa situation, de ne pas se contenter d'énumérer les langues auxquelles il est exposé parce que le bilinguisme est influencé par un grand nombre de facteurs complexes. Lorsqu'on a un portrait plus précis du profil linguistique de l'enfant bilingue, il devient plus facile d'interpréter les résultats à des tâches d'évaluation langagière. Alors, c'est un texte spécifique, mais intéressant, donc, de Sabah Méziane, qu'on peut trouver sur le site parlonsapprentissage.com.
Merci beaucoup, Marie.
Alors, on parle beaucoup, beaucoup de conciliation famille-travail. Au Québec, c'est une situation qui est une source de stress importante pour une majorité des parents québécois. Sur le site Observatoire des tout-petits, j'ai trouvé une vidéo qui dure une minute et qui parle de ça. Alors, j'aimerais vous la faire écouter.
Être parent en 2018, c'est souvent devoir jongler entre vie de famille et vie professionnelle. Cette conciliation famille-travail est d'ailleurs une grande source de stress pour 62 % des parents québécois. Et chez les parents des tout-petits, cette proportion est encore plus élevée. Déchirés entre leurs responsabilités familiales et professionnelles, les parents ont moins de temps à consacrer à leurs enfants et sont aussi moins disponibles psychologiquement, ce qui a malheureusement un impact sur le développement de l'enfant. Au Québec, même si la plupart des parents disposent de mesures de conciliation famille-travail, plusieurs semblent hésiter à les utiliser. Sans compter que certains groupes de travailleurs n'y ont toujours pas accès. Loin d'être un luxe, les mesures de conciliation famille-travail sont une nécessité. C'est le bien-être de nos enfants qui en dépend. Veillons à ce que toujours plus de parents puissent en bénéficier et encourageons-les à les utiliser.
Très éclairant. Tout à fait. Alors, Yvan, une petite brève sur...
Oui, moi, je voulais juste souligner que du 14 au 29 mai, donc la semaine prochaine, ce sont les journées québécoises des lésions médulaires. On peut avoir l'horaire dans le site Moelle épinière et Motricité Québec. C'est des activités de pétanque, une soirée sur roue avec des épreuves sur chaise roulante et les défis accès sommet sur le Mont Washington.
Wow! Eh bien, un petit mot peut-être, Marie?
Un petit mot, oui, tout à fait. Alors, barbecue, moi, je préfère dire « poil aux fesses. Parce que c'est barbecue.
Oh, d'accord. OK. Alors, sur ce petit ton humoristique, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été à l'écoute, chers auditeurs. Merci Marie pour le choix des
merci
articles. Merci Yvan. Et puis, merci Maurice de ton appui inconditionnel.
Et bonnes petites vacances.
Merci et bonne semaine. J'espère